Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, le Florilège des Arts, dirigé par Jean-Bernard Caoudaspri, diffusé en direct, mercredi 9 mars 2011, de 10h45 à 11h45, en différé l'après-midi de 14h à 15h, jeudi 10 de 6h à 7h et samedi 12 de 18h à 19h. Cette émission est réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio et par téléphone quatre invités qui nous parleront de sujets variés d'art et d'actualité. Le premier pour les auditeurs du Florilège des Arts sera Monsieur Laurent Bouvet, directeur de l'association Reconstruisons le Château de Saint-Cloud, et qui nous fera le point sur l'avancement de ses projets. Il était en effet venu il y a déjà 3 ans chez Maximilien Choucy. Je lui ai demandé aujourd'hui de venir aujourd'hui pour faire le point de l'avancement de ses projets. Et je voudrais d'ailleurs signaler et le remercier du site extraordinaire qu'il a fait et qui donne beaucoup de plaisir et dont il va vous donner l'adresse. Alors, sur ce site, il présente de nombreuses photos du château, mais aussi des documents et reportages sur des reconstructions de châteaux, comme celui de Berlin, qui est tout à fait passionnant, il va nous en parler, mais aussi ceux de Tsarskoye-Selo, Peterhof, Strelnak, que nous irons visiter en septembre avec le monde de l'art et des lettres. Alors, je donne la parole à Monsieur Laurent Bouvet, qui devrait satisfaire les amoureux du patrimoine, de notre beau patrimoine français. Alors, Monsieur Bouvet, où en est votre projet ?
Eh bien, voilà maintenant 5 ans que notre association a été créée, et donc le projet a été lancé. Donc, nous sommes partis absolument de zéro. Et en 5 ans, nous avons fait un chemin considérable à tout point de vue, même si, évidemment, nous sommes encore loin de la pose de la première pierre. Le démarrage a été un peu difficile parce que, précisément, on ne partait pas d'un projet préexistant qu'on aurait pu reprendre. D'autre part, ce projet, il faut bien le dire, bouscule un certain nombre d'habitudes, et notamment d'habitudes françaises qui ne sont pas favorablement, enfin qui traditionnellement ne sont pas favorables à la reconstruction des monuments historiques disparus, ou du moins disparus depuis longtemps, parce que on s'aperçoit que pour ce qui est des monuments disparus récemment, ils ont tous été reconstruits. On peut citer l'exemple du Parlement de Rennes, qui, dans les années 90, a brûlé et qui, immédiatement après, a été reconstruit, ou du château de Lunéville. Enfin, pour ce qui est des bâtiments beaucoup plus anciens, disparus plusieurs décennies ou plusieurs siècles, il est évident qu'en France, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays, qu'ils soient en Europe centrale ou en Europe orientale, la tradition n'est pas de les reconstruire. Donc il a fallu briser un peu les réticences qui pouvaient exister au demeurant, en faisant valoir tous ces arguments, en y répondant, en montrant les exemples qui se produisent à l'étranger aujourd'hui encore, dans la mesure où, notamment en Allemagne, on reconstruit à tour de bras Ça avait déjà commencé avant la chute du mur de Berlin et ça s'est poursuit ensuite, tout comme en Russie. Il a fallu mobiliser les hommes politiques, au moins au niveau local, et puis également la presse. Et à ces deux égards, notre action a beaucoup progressé depuis 2008, date où j'étais passé la première fois à Radio Courtoisie. Et on peut même dire que notre action a décollé en 2010, l'année dernière, dans la mesure où, sur un plan médiatique, par exemple, on a eu autant d'articles dans la presse en 2010 qu'en 2006, 2007, 2008 et 2009 réunis. Et puis, pour ce qui est des soutiens politiques, qui sont, à notre sens, extrêmement importants, car nous considérons que cette reconstruction ne peut intervenir que si un vaste consensus politique se produit autour d'elle. Ça n'est qu'en 2010 que les grands partis politiques qui structurent la vie politique française, à savoir le Parti Socialiste d'une part et l'UMP d'autre part, se sont ralliés, au moins partiellement, ou pour certaines de leurs composantes, mais des composantes importantes, à notre cause. Alors, pour prendre des exemples très concrets, pour ce qui est du Parti Socialiste, l'année dernière, nous avons obtenu le soutien du groupe socialiste du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors, quand je dis soutien, c'est un soutien que nous pouvons prouver, qui est un soutien bien réel, un soutien moral, certes, mais un soutien bien réel, au travers d'un courrier sur papier en tête, avec signature de la présidente du groupe. Et tout cela, d'ailleurs, figure sur notre site Internet. Pour ce qui est toujours du Parti Socialiste, nous avons également obtenu le soutien du vice-président socialiste du Conseil régional d'Île-de-France, M. Philippe Kaltenbach, que je remercie. Et M. Philippe Kaltenbach était la tête de liste socialiste dans les Hauts-de-Seine aux élections régionales. Il a fait d'ailleurs un score très important, puisqu'il a devancé la liste de Mme Pécresse, qui était représentée par M. André Santini. Et suite à cela, M. Kaltenbach est devenu vice-président du Conseil régional Île-de-France et il m'a envoyé un courrier de soutien que vous pouvez également lire sur notre site Internet, où il manifeste son attachement à notre projet et son désir de voir le château de Saint-Cloud reconstruit. Pour ce qui est de l'UMP, là encore, l'année dernière, nous avons obtenu le soutien du vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui est également maire de Suresnes. Il s'agit de Monsieur Christian Dupuis. D'autre part, nous avons obtenu le soutien de trois fédérations de l'UMP, qui sont la Fédération des métiers d'art et du luxe, d'une part, le soutien de la Fédération de la culture et le soutien de la Fédération de l'urbanisme. Donc, on voit que progressivement, une espèce de consensus politique est en train de s'établir autour de cette reconstruction. Et puis, qui plus est, nous sommes soutenus par plusieurs groupes du Conseil régional d'Île-de-France. Et donc, on assiste à une amorce de soutien croisé, à la fois PS, UMP, département, région. Donc tout cela est extrêmement encourageant et nous incite vivement à poursuivre notre action.
Alors, qu'est-ce qui a motivé votre initiative ?
Alors, ce qui a motivé mon initiative, ça n'est pas un amour immodéré pour le château de Saint-Cloud, mais...
Oui, pour cause.
Oui, mais bon, au travers de documents, on en a une claire idée.
Et vous les présentez d'une façon remarquable.
Je vous en remercie. Mais c'est plutôt l'exemple de reconstruction du château fort de Guédelon dans l'Yonne, qui se fait avec succès depuis maintenant près d'une quinzaine d'années. Alors, quand je dis reconstruction, le terme est inexact, en ce sens qu'il s'agit davantage d'une construction que d'une reconstruction, pour la raison que, au Moyen-Âge, à Guédelon, à cet endroit, il n'y a jamais eu de château fort. C'est Michel Guyot, qui est le propriétaire du château de Saint-Fargeau, qui, il y a une quinzaine d'années, a voulu construire de toutes pièces un château fort. Donc, il s'est adressé à un architecte en chef des monuments historiques spécialisé dans la période médiévale et lui a demandé de lui dessiner les plans d'un château fort type tel qu'il pouvait en exister au XIIIe siècle. Donc, le château de Guédelon n'est pas la copie d'un château fort existant quelque part. Et d'autre part, à cet endroit, il n'y a jamais eu de château fort. Donc, c'est véritablement une création originale. Bon. J'avais vu un certain nombre de reportages à la télévision sur cette construction médiévale de Guédelon. Et au fil du temps, je me suis dit que ce modèle économique étant particulièrement séduisant dans la mesure où cette construction du château fort de Guédelon s'est faite sans apport financier extérieur de la part du promoteur du projet qui est Michel Guyot, mais cette construction est financée uniquement grâce aux entrées payantes des visiteurs du chantier. Et il y a un autofinancement total, qui est même d'une certaine façon plus que total, puisque les promoteurs de ce projet sont dans le cadre d'une société anonyme qui dégage des bénéfices. Donc on peut dire que l'autofinancement est de l'ordre de près de 110%. Ce qui m'a conduit à penser que finalement ce modèle économique pouvait parfaitement être transposé et appliqué à la reconstruction d'un monument historique disparu. Alors, ayant toujours vécu dans la région Île-de-France, j'ai cherché, si je puis dire, un terrain d'application où il serait possible de mettre en œuvre ce modèle économique. Et puis, très rapidement, pour différentes raisons, j'ai pensé au château de Saint-Cloud, qui certes avait disparu, mais dont l'entier parc subsiste. Et au sein de ce parc, l'emplacement du château étant vierge de toute construction, il est évidemment très facile dans ces conditions de le reconstruire.
Alors voilà qui devrait répondre à une objection que me fait un de nos auditeurs et qui me dit « Entretenons notre patrimoine avant de penser à des reconstructions totales ». Alors, bon, ça pourrait, effectivement, c'est une opinion. Pourquoi ne restaurerait-on pas, reconstruirait, puisque là il est plutôt question d'une reconstruction, pourquoi les Allemands, par exemple, ont-ils tant tenu à reconstruire le château de Berlin, et pourquoi on a reconstruit Varsovie, qu'est-ce que ça de stupide de vouloir faire quelque chose de nouveau. Bon, cet auditeur doit se tromper sur les mots quand il me parle des incidents qui ont permis la destruction du Parlement de Rennes et du château de Lunéville. Je crois que ce sont des graves accidents.
Pour ce qui est du Parlement de Rennes, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois savoir que c'était une espèce de grenade lacrymogène qui est tombée sur la toiture suite à des manifestations. Donc on peut parler d'incidents ou d'accidents, effectivement. Mais enfin bon, peu importe. Donc, pour répondre à cette objection traditionnelle qui nous est faite, j'y ai répondu d'ailleurs avant même de connaître la question, à savoir, commençons par entretenir notre patrimoine avant de procéder à des reconstructions. Il est bien évident qu'il faut entretenir notre patrimoine, dont une bonne partie est en mauvais état. Mais si on n'entretient pas correctement notre patrimoine, c'est uniquement, non pas par manque d'artisans, mais par manque de financement. Bon.
Et là, vous trouvez le financement de votre projet.
Oui, voilà.
Donc, c'est une initiative privée, quelque sorte.
C'est une initiative privée. On ne va pas aller demander de l'argent au ministère de la Culture. Si vous prenez le cas du château fort de Guédelon, c'est pas parce qu'actuellement on construit un château fort à Guédelon qui est financé à plus de 100% par les entrées payantes des visiteurs que par ailleurs on restaurerait moins d'autres châteaux forts qui seraient en mauvais état. C'est uniquement une question de flux financiers et les flux financiers qui viendraient alimenter la reconstruction du château de Saint-Cloud n'auraient strictement rien à voir avec les flux financiers qui traditionnellement servent à entretenir les monuments historiques qui par exemple appartiennent à l'État. Bon, donc si vous voulez, c'est un argument qui m'agace parce que ça revient comme une ritournelle.
Mais c'est compréhensible.
J'ai beau expliquer aux gens que ce serait dans le cadre d'un chantier autofinancé par les entrées payantes des visiteurs, ils me disent oui, et puis 10 secondes après, ils me disent mais l'État n'a pas d'argent. Mais je dis, mais c'est pas une... pas la question de demander de l'argent à l'État. Donc, si vous voulez, ça leur rentre par une oreille, ça leur sort par l'autre. Bon, il faudrait tout de même que les gens finissent par comprendre que notre projet n'a rien à voir avec une reconstruction où on irait demander de l'argent soit à l'État, soit à des collectivités territoriales. Bon. Et d'autre part, c'est un projet qui, au contraire, pourrait rapporter de l'argent au pouvoir public sous forme de TVA, sous forme de taxes diverses et variées, sous forme d'impôts sur les sociétés. D'ailleurs, quand vous regardez les comptes du château fort de Guédelon, vous vous rendez compte qu'il paye pas mal d'impôts à droite et à gauche, qu'il verse des cotisations sociales, etc. Donc c'est une entreprise comme une autre. Alors si vous trouvez qu'on a trop d'entreprises en France qu'on n'a pas assez de chômeurs, voilà, continuons comme ça.
De toute façon, je pense que c'est aider le patrimoine, ce n'est pas de reconstruire ce château, c'est vraiment ce que j'invite la personne qui nous a téléphoné à aller sur les lieux mêmes et ils verront que vraiment c'est un manque quand on voit cette grande terrasse vide et on se sent donc il est vraiment pas nécessaire bien entendu mais important de reconstruire cette merveille qui a été vraiment, on se demande pourquoi elle a été détruite. Au moins on aurait pu aimer les ruines et au moins ça laissait le temps d'y revenir. J'ai encore, puisque je connais bien l'exemple de la Russie, j'ai vu tous ces châteaux qui ont été presque pratiquement détruits et qui sont reconstruits. L'année dernière on a reconstruit entièrement la cathédrale Sainte-Catherine et ça a été un événement national, si j'ose dire, même international, pour tous les pays russes. Cette cathédrale dont les bolcheviks avaient détruit jusqu'à, pas aux fondations, mais jusqu'au sol. Donc, ça fait partie de l'entretien du patrimoine, de restaurer certains bâtiments, ou même de reconstruire certains bâtiments qui sont en ruine. Alors, votre dossier, j'en renvoie tout simplement nos auditeurs à votre site, parce que votre site, je le répète, il est vraiment exceptionnel. Il y a bien pour 2 heures, si on veut tout voir, entre les vidéos, et on y prend 2 heures de plaisir, et au moins on peut le regarder même en plusieurs fois.
Oui, on peut le regarder en plusieurs fois. 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup.
Ah, c'est ce que j'ai passé.
c'est ce que vous avez
entre
passé.
Le film sur le duc d'Anjou, enfin le duc d'Orléans,
ah oui, bien
et
sûr,
sur tout ce qui est. Ben oui, mais c'est, vous apportez tellement d'exemples, de choses à lire que je ne peux qu'insister. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs décidé à vous inviter et à présenter à nos auditeurs.
Alors je tenais à dire quelque chose d'important précisément concernant notre site internet, c'est que nous avons procédé ces derniers mois à un très important travail de restauration des photographies d'époque du château de Saint-Cloud. Et il faut savoir que Napoléon III avait fait prendre de nombreuses photographies aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de ce château. Et aujourd'hui, grâce à la restauration de ces photographies qui étaient en sépia, qui étaient tachées, etc., on a sur notre site internet des documents tout à fait exceptionnels, et on a l'impression que ces photographies ont été prises la semaine dernière, tant elles sont de qualité parfaite. D'autre part, tous les grands appartements ont été reconstitués sous forme de maquettes très réalistes, et donc vous pouvez voir les grands appartements du château de Saint-Cloud en couleur, j'insiste bien, en couleur, c'est tout à fait stupéfiant, et nous remercions les personnes qui ont fait tout cela. Donc j'incite tous vos auditeurs à se rendre sur notre site internet, c'est très facile, vous allez sur Google, vous tapez « Reconstruisons Saint-Cloud » et vous y arrivez tout de suite, « Reconstruisons Saint-Cloud » étant le nom de notre association.
Eh bien voilà, nous attendions un correspondant par téléphone. Je ne sais pas si nous l'avons. En tout cas, merci de nous avoir signalé. D'accord, je le vois. Il est en ligne. Monsieur Colomba ? Ah, il n'est pas là. Bon, eh ben, écoutez, en attendant...
Alors, j'avais une dernière chose.
Oui, ben, allez-y.
Je voulais ajouter que cette année viennent d'être créés les Amis américains du château de Saint-Cloud à New York, qui se trouve présidé par un avocat américain. Ces amis du château de Saint-Cloud ont pour ambition d'être les équivalents des amis du château de Versailles. Et dans les mois et les années à venir, les amis américains du château de Saint-Cloud promeuvront aux États-Unis l'idée de la reconstruction du château de Saint-Cloud et chercheront à collecter des fonds à cette fin. Et c'est ce en quoi on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un projet qui véritablement s'internationalise.
Bon, ben, je suis surpris. On me dit que le lycée où nous attend M. Colomba est fermé et que j'ai bien le numéro, puisque j'ai son document que je viens d'appeler. Ben, nous allons essayer. Peut-être qu'on pourrait le relancer sur son portable, qui est le numéro qui est juste à côté, et lui demander qu'il soit au numéro, parce que c'est une initiative très intéressante que je tiens à vous montrer. En tout cas, monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir présenté votre association Reconstruisons le château de Saint-Cloud.
Reconstruisons Saint-Cloud.
Reconstruisons Saint-Cloud. Oui, pourquoi alors pas le château de Saint-Cloud?
Bon, ben, c'est pour faire court.
Pour
si
faire
vous voulez,
court.
Voilà.
Bon. Et donc, vous avez donné les coordonnées. J'espère que nos gens, nos invités, nos auditeurs qui s'intéressent au patrimoine auront la curiosité d'aller voir ce site qui, je le répète, moi, m'a donné beaucoup de plaisir.
Et d'autre part, nous avons créé tout récemment un comité d'honneur où figure notamment le comte de Paris, qui est le descendant direct de Philippe d'Orléans, constructeur du château, où figurent d'autres princes capétiens, où figure Jean Tullard, maître Pierre Cornet de Saint-Cyr, ainsi que d'autres personnalités. Et là encore, vous pourrez voir leur courrier sur notre site.
Bien, je crois que mon correspondant est en ligne.
Oui, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous avons eu quelques déboires pour vous joindre sur le numéro du lycée, puisqu'il est fermé. Et je voudrais signaler à nos auditeurs l'initiative très intéressante que vous avez, disons, dont vous êtes responsable, si j'ose dire, puisque vous organisez depuis 20 ans un concert des lycées avec les élèves du lycée Faber et d'autres lycées. Alors, voulez-vous nous parler de ce projet qui va permettre à votre public de découvrir des œuvres inédites de Miaskowski. Enfin, inédites, je ne sais pas si elles sont inédites, mais elles sont inconnues en France. C'est au moins une création. Et surtout, c'est l'initiative que vous faites, que vous avez fait, que vous avez déjà 20 ans et vous avez fait un programme extraordinaire. Alors, Miaskowski, bien entendu, les Français ne connaissent pas. J'invite toutefois ceux qui ne pourront pas, hélas, aller au concert dont vous allez nous parler, de regarder sur YouTube. Il y a beaucoup d'extraits des symphonies de Miaskowski. Et je n'ai pas le temps ici de parler, de raconter la biographie de Miaskowski. J'invite tout simplement nos auditeurs qui seraient intéressés à lire l'importante en page biographie de Miaskowski à qui j'ai consacré je ne sais plus combien de pages dans Le Monde de l'art et des lettres numéro 40. Alors, pouvez-vous nous parler de ce concert qui va avoir lieu en plusieurs endroits et quels sont vos partenaires? Alors, à vous la parole, je crois que vous êtes le mieux placé pour en parler.
Oui, donc ces concerts des lycées ont été créés à l'initiative du lycée Faber à Metz, mais ils rassemblent aussi le lycée Georges de la Tour de Metz, le lycée Jean Moulin de Forbach, qui est un lycée allemand en Sarre, le Warngymnasium de Völklingen. Alors, nous donnons un programme par an et nous essayons de diversifier notre répertoire de chœurs et d'orchestres, puisque nous donnons des programmes qu'on peut qualifier d'oratorio, même si nous essayons aussi de faire de la musique profane. Alors, la découverte de Miaskowski est une découverte personnelle, mais qui s'est faite à la faveur de l'année de France-Russie. J'ai découvert Miaskowski grâce aux éditions du Chant du Monde à cette occasion. Et nous allons effectivement donner les deux seules cantates profanes de Miaskowski, Kirov avec nous et le Kremlin la nuit. Miaskowski est, c'est vrai, peu connu en France, mais il commence à émerger, je crois.
Il y a plusieurs disques, j'ai trouvé.
Pardon ?
Il y a plusieurs disques qui sont édités par Chant du Monde et par d'autres maisons d'édition.
Mais surtout dans sa musique de chambre, je dirais, et puis sa musique symphonique. Et moi, comme, disons, je recherchais plutôt de la musique chorale et vocale, et ces œuvres, ce type d'œuvre est assez rare, puisqu'il n'y a que seulement deux œuvres chorales, avec orchestre, j'entends, de Miaskowski, ainsi que la sixième symphonie qui comprend un mouvement avec chœur. Donc nous allons donner une partie importante de l'œuvre chorale de Miaskowski à l'occasion de ces trois concerts qui ont lieu à partir de la semaine prochaine. Le premier concert a lieu à Völklingen en Sarre le mercredi 16, puis le second concert le vendredi 18 mars au CAC de Forbach, et enfin le 23 mars à l'Arsenal de Metz. Alors ce programme, il faut quand même le dire, sera complété par la Frühlingsfantasie, la fantaisie du printemps de Niels Gade, compositeur danois du 19e siècle, qui ouvrira le concert. C'est une œuvre assez originale pour piano solo, chœur et orchestre. Alors, si vous permettez, je peux dire quelques mots des œuvres de Miaskowski qui sont très,
je vous en prie,
très, très étonnantes, enfin, pour nous, occidentaux. Kirov avec nous C'est une œuvre de guerre, on peut le dire, hein, vraiment très, très prenante, sur le siège de Leningrad, donc qui a duré 2 ans dans les années 41-43. Et pour
il fait 1 million de morts.
Oui, voilà. Et c'est une œuvre qui contribue à l'effort de guerre du peuple soviétique à cette époque-là, puisque l'œuvre a été composée pendant le siège de Leningrad. Alors, je crois que Miaskovski n'était plus à Leningrad, mais il l'a composé pendant le siège.
Il était à Moscou, texte, Miaskovski.
Oui, je pense. Et donc, ce Kirov, il s'agit non pas du théâtre, mais du dirigeant bolchevique assassiné en 1934, qui était, paraît-il, très populaire, qui a dirigé en gros le parti à Leningrad. Et son fantôme, peut-on dire, revient pendant le siège de la ville, et en traversant la ville, il ranime la flamme patriotique et l'ardeur des défenseurs. Donc c'est une œuvre politique, mais d'inspiration héroïque et épique. Et donc le 19e siècle est très présent dans ce poème, dans ce personnage, et dans la façon dont Miaskovski le traite, je dirais. Musicalement, c'est très intéressant, parce que les mélodies peuvent être assimilées à des mélodies populaires. Le thème de Kirov, on identifie ça tout de suite comme étant de la musique russe. Mais c'est traité d'une façon très raffinée, très savante, avec une orchestration vraiment très subtile, même si, à la fin de l'œuvre, elle est extrêmement grandiose. Et tout ça forme un ensemble, une véritable fresque à la Prokofiev.
Qui est un de ses amis.
Oui. Avec cette correspondance que nous aimerions connaître entre les deux compositeurs. Et selon moi, chez Miaskovski, il y a moins de... C'est moins mécanique, c'est moins dur. Et je sens plus, je le répète, de chez Miaskovski, je sens plus l'esprit du 19e siècle, même si le langage est très chromatique et très moderne, souvent.
C'est un disciple de Tchaïkovski, auquel il rend hommage très souvent.
Oui. Je vois aussi une filiation entre de Brahms à Miaskovski. Ça, pour moi, c'est une découverte que j'ai faite, que j'ai du mal à exprimer de façon ordonnée et, disons, rationnelle. Mais pour moi, Miaskovski est un fils de Brahms, même si son identité russe est très forte. Ça, c'est indéniable.
Alors, la plupart de nos auditeurs ne pourront pas aller écouter vos 3 concerts qui sont faits donc avec des élèves de plusieurs lycées. Est-ce que vous pourriez nous donner des coordonnées, un site pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent se rendre ou qui veulent tout simplement connaître un peu mieux Miaskovski? À quelle adresse peut-on s'adresser?
Alors, sur Internet, sur le site du lycée Faber, www.lycée-faber.com.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté votre projet. Je dois dire que j'ai vu plusieurs vidéos de vos concerts et je ne puis me dire que c'est de la très grande qualité et que vous êtes un grand chef.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Thank you. Eh bien, vous écoutiez quoi, Simon Bazinger ?
Le Gloria de Francis Poulenc.
Voilà, eh bien, cette merveilleuse musique de Francis Poulenc pour nous rappeler que, pour nous mettre en condition, pour nous rappeler que, et vous allez nous en parler tout à l'heure, qu'il existera ce mois-ci une semaine en Francis Poulenc. J'aurais voulu, mais pour l'instant il ne répond pas, avoir un deuxième intervenant par téléphone, Monsieur Philippe Duris, qui doit nous parler du festival du Marais chrétien. Alors, je pense que nous l'avons en ligne. Philippe Duris ?
Entendez.
Ah, très bien. Voilà, mais voulez-vous évoquer pour nos auditeurs ce festival pluridisciplinaire que vous organisez dans le Marais depuis 14 ans ?
Alors... Depuis 14 ans, oui, c'est exact. Oui, si vous voulez, ben, ce festival, il a été créé, en fait, même depuis plus de 14 ans, il a été créé en 1995, par le curé de Sainte-Élisabeth de l'époque, qui était le père Vallée, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui avait eu l'idée de se servir de l'extraordinaire richesse du patrimoine artistique de ce quartier à des fins d'évangélisation. Faire méditer les gens, leur faire redécouvrir ou découvrir la dimension spirituelle des œuvres d'art, qu'il s'agisse de peinture, d'architecture, de poésie ou de musique. Alors voilà pourquoi, bien chaque année, en temps de carême justement, qui est un temps de réflexion, et il est proposé aux Parisiens des expositions, des visites, des conférences, des concerts, dans les églises, dans les temples aussi, puisque nos frères protestants participent également, et dans les mairies de ce quartier du Marais.
Alors, c'est un festival, je l'ai dit, pluridisciplinaire. Il y a des concerts, il y aura des... Est-ce qu'il y a des conférences ? Je ne sais pas, mais il y a des expositions. Est-ce que vous pouvez donner, bien sûr, ce serait... trop long de donner tous les concerts et même les principaux. Pouvez-vous indiquer à nos auditeurs comment peuvent-ils être renseignés sur ce festival qui a lieu dans le Marais ?
Alors, ceux qui ont Internet, il y a un site, marais-chrétien.com. Marais-chrétien en minuscule lié, marais-chrétien.com. Pour les autres, eh bien, il y a des dépliants qui récapitulent toutes les manifestations qui sont disponibles dans toutes les églises parisiennes et dans les mairies des 3e et 4e arrondissements.
Bon, et vous avez une exposition, je crois, quel rapport je n'ai avec d'un asiatique.
Alors on a deux expositions, enfin on a plusieurs expositions. Il y a effectivement c'est une exposition de Sheng Ying, qui est une peintre chinoise, parce que beaucoup l'ignorent, mais le troisième arrondissement de Paris, c'est aussi le berceau de la communauté chinoise parisienne. Les premiers Chinois qui sont venus s'installer à Paris au début du XXe siècle se sont installés dans le 3e arrondissement et pas dans le 13e où ils sont très nombreux maintenant. Voilà, donc un peu, c'est un clin d'œil à la Chine. Sheng Ying, une peintre chinoise, expose à la mairie du 3e pendant toute la semaine. Puis il y a aussi une autre très belle exposition, parce que le thème du Marais chrétien de cette année, c'est regard. Alors une autre exposition qui s'intitule Rabouni que je vois, ce sont des peintures de Catherine Axelrad qui sont exposées à Saint-Denis du Saint-Sacrement, rue de Turenne, également pendant toute la semaine. Puis il y a bien d'autres expositions.
Bien, donc nos auditeurs maintenant connaissent et n'auront pas d'excuses pour ne pas avoir le détail de vos concerts, parce que des églises, il y en a dans tous les quartiers, et c'est pas difficile d'aller chercher votre prospectus pour ceux qui sont à Paris. Sinon, vous avez donné le site marais-chrétien.com.
Marais-chrétien.com, voilà, c'est cela.
Eh bien, je vous remercie d'avoir prévenu nos éditeurs de ce festival du Marais, où j'essaierai de me rendre à plusieurs de vos manifestations.
Eh bien, merci Bernard aussi de m'avoir permis donc de parler de ce festival sur votre antenne.
Merci beaucoup. À bientôt. Alors, avant de vous parler de la semaine Francis Poulenc, qui est un événement, un grand événement, là encore un événement pluridisciplinaire, puisqu'il présentera des concerts, des conférences, des émissions sur France Musique, des expositions, une messe, dans des lieux et des, avec des partenaires privilégiés. Et pour ce faire, j'ai invité son concepteur et directeur animateur, Simon Bazinger. Mais auparavant, je vais vous donner trois petites informations. Alors, la première, c'est que je voudrais vous annoncer deux expositions du peintre Sergueï Chépik. La première est intitulée « Balade dans Paris » et qui présentera des œuvres parisiennes du peintre russe à la galerie Artevita, 25 rue Trébois à Levallois-Perret, du 24 mars au 30 avril, tous les jours de 11h à 19h, et sauf les dimanches et lundis. La seconde, toujours consacrée à Sergueï Chépik, présentera ses œuvres religieuses à l'espace Atrium, 76 rue des Saints-Pères, dans le 9e, du 4 au 28 avril. Et là encore, l'exposition est ouverte tous les jours de 9h à 19h, sauf les samedis et dimanches. Dans le domaine musical, et j'allais dire toujours dans une collaboration franco-russe, vous aurez le 30 mars 2011 à 21h au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage dans le 20e, métro Jourdain ou Ménilmontant, un concert de l'association Natacha, du groupe Natacha et Nuit de Prince. Natacha Fialkovski, qui est la chanteuse, qui est née en France, mais d'origine russe, est entourée d'un orchestre de musiciens français qui joue des mélodies, des romances, etc. Et même parfois, Natacha déclame des poèmes de Pouchkine, comme la dernière fois, est venue ici. J'ai eu le bonheur de l'accueillir pour une émission de Radio Courtoisie. Alors, je répète, le 30 mars à 21h au studio de l'Ermitage. Il y a là aussi un site et un téléphone. Le téléphone d'abord, 01 44 62 02 86. 01 44 62 02 86. Et le site, c'est www.studio-ermitage.com ou www.nuitdeprince.com. Les gens cultivés sauront que ce Nuit de Prince est inspiré du roman de Kessel qui s'appelle Nuit de Prince. Alors, dernière information. Je rappelle que les inscriptions pour le voyage à Saint-Pétersbourg organisé par le Monde de l'Art et des Lettres du 17 au 26 septembre sont désormais ouvertes et vous pourrez avoir des informations soit en me téléphonant au 06 10 20 74 94 ou en regardant notre site internet, le site internet du Monde de l'Art et des Lettres, qui s'appelle Le Monde de l'Art et des Lettres, avec la redondance, Le Monde de l'Art et des Lettres.com, que vous trouverez tout de suite en regardant sur Google. Alors, maintenant, Simon Bazinger, pouvez-vous nous de faire le portrait, nous expliquer toutes les merveilles que vous allez présenter au public parisien lors de ce concert, de cette semaine sur Francis Poulenc.
Eh bien, d'abord, ravi de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie. Merci Jean-Bernard Caron-Daspry d'être toujours à mes côtés dans cette belle aventure de Francis Poulenc.
Et vous savez mon amour pour la musique française.
Et Dieu sait que je le connais et je vous en remercie. Alors, effectivement, les auditeurs vont peut-être reconnaître ma voix et reconnaître aussi toute cette passion qui fait que il y a déjà maintenant 4 ans, j'ai créé Les Cahiers Francis Poulenc, donc une publication sur et autour du compositeur Poulenc. Et avec la même passion, eh bien, j'ai créé cette semaine internationale Francis Poulenc. Alors, cette semaine aura lieu donc du 22 au 27 mars 2011. Elle s'ouvrira avec une thématique très sympathique, puisque c'est Poulenc intime, à la Bibliothèque nationale de France. Sur cette thématique, nous aurons un premier concert à 18h avec Emmanuel Strosser, Sofia Gbolomova et notre invitée d'honneur, Dame Felicity Lott, qui interprétera de merveilleuses mélodies. Le soir, à 21h, nous aurons un grand concert inaugural avec musique sacrée de Notre-Dame à la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec la maîtrise de Radio France et la maîtrise de Notre-Dame. Mercredi, c'est un Poulenc Paris, Poulenc et les poètes, qui sera donné aussi bien à la Fondation Saint-Germain-Polignac que dans tous les conservatoires d'arrondissement et également au Forum des Images. Le jeudi, nous retrouverons un Poulenc et Paris avec une thématique plus centrée sur les jeunes, avec le lycée Condorcet, un concert à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, un autre concert à Gaveau. Vendredi, on abordera le Poulenc et les arts avec à la Maison de la Recherche Université Paris-Sorbonne, au Musée Marmottan et au Forum des Images. Quant au week-end, le samedi, on aura à l'Institut catholique de Paris une grande thématique dénommée du spirituel dans la musique de Francis Poulenc. Et dimanche, on clôturera avec un hommage, une messe du souvenir et recueillement qui sera donnée à l'église Saint-Sulpice de Paris. Et là, j'ai demandé à Sophie-Véronique Cochefer, qui est titulaire des grandes orgues de Saint-Sulpice, d'improviser sur des thèmes de Francis Poulenc. Alors, on va retrouver pendant cette semaine une thématique originale où l'accent a été porté surtout sur la nouvelle génération, parce que Dieu sait que malheureusement tous nos jeunes sont un peu loin, pour pas dire très loin, de l'univers de nos compositeurs français. Et par là, j'ai voulu donner cette dynamique en engageant avec beaucoup de force et avec beaucoup de passion toute la jeunesse. C'est pour ça que nous avons des comédiens des cours Florent, c'est pour ça que nous avons la thématique au lycée Condorcet, c'est pour ça que tous les musiciens qui vont collaborer sont de jeunes musiciens de notre pays, sans oublier également la révérence que je fais auprès de nos grands artistes lyriques comme Michel Sénéchal et comme Monsieur Jean-Christophe Benoît, qui est peut-être Monsieur Bacquier, qui viendront parfaire par leur professionnalisme, par leur talent, la musique de Francis Poulenc et le patrimoine musical français. Voilà. Donc j'ai fait ça, je dois le dire, avec peu de moyens. Ça a été du porte-à-porte. Ça peut paraître très très bizarre, mais malheureusement, l'Association des Amis de Francis Poulenc n'a pas voulu se joindre à cette dynamique, préférant bien sûr voir le cinquantenaire de la mort de Poulenc en 2013. Mais je voulais complètement le dissocier, cet
événement.
Et
qu'est-ce qui empêche de le faire plusieurs fois ?
Oui. Oui.
C'est les gouttes d'eau qui percent
oui,
la pierre.
Oui,
c'est
absolument.
Pas le gros seau d'eau qu'on jette
dessus. Savez, je crois que si on ne s'arme pas de passion et de détermination pour croire en la musique française, eh bien, on s'avoue vite vaincu. Moi, ce n'a pas été mon cas, et sans prétention aucune, je le dis. J'ai pris Francis Poulenc sous le bras, et on est parti ensemble, frapper aux portes, même aux portes de la mairie de Paris. Et Dieu sait que ce n'a pas été facile, puisque je n'ai pas... C'est mon premier événement. Je n'ai pas une notoriété ni nationale ni internationale. Elle commence à venir parce que les gens voient avec beaucoup de passion comment je combats pour notre culture. Et ça a donné qu'avec force et détermination, eh bien, M. Bertrand Delanoë parraine l'événement. Même chose avec Monsieur Pierre Berger, qui a eu la gentillesse également de signer quelques mots. J'ai demandé également à Madame Denise Duval, qui est bien sûr la muse de Francis Poulenc, de venir, une des muses, de venir, d'écrire quelque chose, et d'écrire avec son cœur, d'écrire avec sa passion, d'écrire avec son amour pour la musique, et ils l'ont fait, et ils m'ont rejoint dans cette belle dynamique. Voilà. Donc, bon nombre de ces concerts sont gratuits, il y avait aussi une dynamique aussi importante pour moi, c'est de permettre bien sûr à tout le monde de pouvoir accéder à cette manifestation. Il y a des concerts qui sont venus se greffer, comme celui de Saint-Louis des Invalides ou de la salle Gaveau, parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Ils jouaient du Poulenc et ils programmaient du Poulenc, et ça les intéressait donc d'être avec nous dans cette dynamique. Et également l'Opéra d'Avignon, qui programmera le dimanche 27 à Avignon la première du Dialogue des Carmélites.
Ça, c'est dommage que ça ne soit pas Paris.
Oui.
Mais enfin, voilà. Il en faut bien pour les provinciaux. Vous annoncez le dimanche 27 mars une messe en hommage à Francis Poulenc, une messe du souvenir et du recueillement. Est-ce qu'il y aura de la musique, des œuvres, ces merveilleuses œuvres sacrées de Francis Poulenc?
Alors, je vais vous dire, quand j'ai rencontré le père Jean-Loup Lacroix à Saint-Sulpice, il a été effectivement très étonné, puisque depuis maintenant 47 ans, donc Francis Poulenc a eu sa messe de funérailles à Saint-Sulpice.
Ah, voilà la raison du choix.
Voilà. En fin de compte, dans le programme, dans cette thématique, on va retrouver toujours un lien avec le compositeur. Par exemple, le compositeur était élève du lycée Condorcet.
J'allais vous poser la question.
Voilà, donc je suis allé voir le proviseur du lycée Condorcet et j'ai demandé effectivement que l'on puisse faire une thématique qui a été bien sûr accueilli avec grand plaisir dans la salle Francis Poulenc du lycée Condorcet. Nous avons le lycée Condorcet rend hommage à son ancien élève Francis Poulenc. De même à Saint-Sulpice, où là, j'ai sollicité le père Jean-Loup Lacroix pour faire une messe à la mémoire de Poulenc, et tel a été mon étonnement de savoir que depuis la messe de funérailles, c'est-à-dire il y a 47 ans, du décès de Francis Poulenc, enfin 48 ans maintenant, eh bien rien n'avait été fait dans ce sens. Et je pense très objectivement et très sincèrement qu'il fallait clôturer avec une messe de recueillement, surtout que nous serons un dimanche de carême. Et donc je crois que c'est aussi, ça appelle aussi à la réflexion et donc à pouvoir donner toute cette dynamique qu'il puisse y avoir. Alors il y aura effectivement des œuvres qui seront joué par Sophie Véronique Cochefer. Il faut bien savoir qu'hormis le concerto pour orgue de Poulenc, Poulenc n'a pas écrit pour orgue, donc c'était un petit peu difficile. Mais Sophie Véronique Cochefer, titulaire des grandes orgues, va improviser de manière sur des thèmes de Francis Poulenc. Voilà. Donc tout un panel à la fois agréable pour tout public. Que l'on peut retrouver, donc ce programme, vous pouvez le retrouver sur le site www.semaineinternationalepoulenc.com. Et bien sûr, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations, eh bien je peux vous communiquer.
Alors, donnez un numéro de téléphone, parce que tout le monde, hélas, n'est pas...
Étant donné que je fais ça avec mes moyens du bord, je n'ai pas d'attaché de presse, donc c'est moi qui joue tous les rôles.
Je me suis bien servi que personne.
Exactement, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez me joindre au 06 17 98 27 47. Et bien sûr, vous êtes tous les bienvenus à cette Semaine internationale Poulenc. Elle est internationale puisque nous avons Sofia Gomolova pour représentante de la Russie et Mlle Asuka Sezaki, ancienne élève de Régis Pasquier, qui viendra spécialement du Japon.
Très bien, merci. Je voulais simplement ne pas oublier de répondre à nos amis, à un auditeur qui demande quel est le projet de Tuileries. Je ne lui ai pas répondu parce que je n'en sais rien.